poche sous les yeux, l'émission.
Bienvenue sur le 93.6, vous êtes bien sur la radio béton, samedi à 12h, c'est l'heure de des poches sous les yeux. Aujourd'hui la des poches sous les yeux un peu spéciale, en direct de Pollard-sur-Loire, voilà, et on est avec, on n'est pas avec Nicole Parlange puisqu'elle est en train de dédicacer, mais on est avec Béatrice et Gémard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous faites partie de l'équipe d'organisation de Pollard-sur-Loire.
C'est hein, ça.
Et donc Pollard-sur-Loire, comme son nom l'indique, est un salon consacré aux auteurs de Pollard qui se passe en Touraine, ou qui sont d'origine tourangelle.
Alors, en fêtant cette année la 9e édition de Pollard-sur-Loire, qui au début était effectivement consacrée uniquement aux auteurs habitant en Touraine ou qui écrivent des romans policiers dont l'action se passe en Touraine. Depuis l'an dernier, pour avoir davantage de variété chez nos auteurs, nous avons élargi le Val-de-Loire jusqu'à Nantes. Donc nous avons aujourd'hui deux auteurs nantais, trois même, qui sont venus parmi les 19 auteurs invités.
D'accord. Le vivier tourangeau de Touraine n'était pas assez grand, c'est ça?
On a à cœur de faire un équilibre subtil entre les auteurs qui ont un lectorat fidèle, qui revient, qui est pressé de découvrir leurs nouveautés, et de faire découvrir aussi de nouveaux auteurs pour pas ronronner, pour pas trop tourner en rond. Donc, nous essayons chaque année d'avoir une programmation variée.
D'accord, parce qu'en fait, c'était un petit peu ma question, c'est est-ce que la Touraine... Est-ce qu'il y a suffisamment d'auteurs pour que vous soyez obligé de faire une sélection, par exemple, ou c'est
Chaque année on fait une sélection. Effectivement, les auteurs qui sont déjà venus et qui n'ont pas de nouveautés, ben on va leur demander de passer leur tour cette année. Voilà. Nous sommes un salon avec assez peu d'auteurs. C'est un choix, un choix que nous faisons en tant qu'équipe et un choix aussi que nous impose ce lieu magnifique qui est l'auditorium de la Bibliothèque centrale de Tours. Donc nous avons une vingtaine d'auteurs. Et là-dedans, donc effectivement, on essaie de trouver un équilibre entre auteur, autrice.
Nicole Parlange vous a rejoint. Donc
oui, excusez-moi.
Nicole était débordée par son succès.
donc c'est 20, c'est la contrainte que vous vous êtes fixée.
On va jusqu'à 22. Mais oui, c'est une contrainte. On ne souhaite pas présenter trop d'auteurs. On a envie que les échanges soient fructueux, que ce soit spacieux. Donc, c'est notre choix et ça fonctionne très bien.
Et ça permet vraiment que le public puisse aller d'un auteur à l'autre et vraiment prendre le pouls de chaque auteur, discuter avec lui. C'est, de notre point de vue, beaucoup plus convivial de cette façon. Et ça a été conçu comme ça dès le départ. Hein, donc,
Par rapport à l'auto-édition, est-ce que c'est pour tout le monde?
Enfin, tous les auteurs... pour tout le monde.
D'accord.
Tout à fait. Il y a des auteurs à compte d'éditeur, il y a des auteurs auto-édités. L'essentiel, c'est qu'ils soient vraiment dans la catégorie roman policier, catégorie qui est vraiment représentée par des genres très différents. Cette année, on met l'accent sur le cosy mystery. On a trouvé que les gens avaient besoin de réconfort en cette époque troublée.
Tout à fait, quelque chose de feel good.
Donc le cosy mystery, c'est...
Dites-nous ce que c'est, parce que... Voilà. En fait, moi, je... J'en avais lu, mais je ne savais pas que c'était du cosy.
Ah, voilà, vous en avez lu sans le savoir. C'est des cosy faits sur le modèle... Ce sont des romans policiers un peu sur le modèle de ceux d'Agatha Christie, qui est un peu le modèle du genre, c'est-à-dire où l'intrigue policière n'est pas sanglante. Ce ne sont pas des polars noirs. Et en général, cela décrit un milieu un peu fermé, de type village, et les relations entre les personnes sont aussi importantes que l'enquête policière.
Oui,
même si on met le cosy mystery à l'honneur cette année, les amateurs de romans policiers trouveront d'autres genres des romans plus noirs que cela aussi.
D'accord. Et pourquoi le choix Cozy Mystery? Parce que...
On avait envie de se faire du bien.
De réconfort.
Avant donc une 10e édition qui sera peut-être, je ne sais pas, plus rouge et plus sanglante. On est en train d'y réfléchir puisqu'on voudrait faire un événement particulièrement marquant pour cette 10e édition en 2026. Mais donc voilà, on avait envie de se faire du bien et que ce soit, vous savez, ces tendances feel good, donc et plutôt réconfortante.
Oui, cosy mystery, si on le traduit littéralement, ça veut dire mystère douillet. Donc c'est le côté cocon, un petit peu douillé, de se plonger dans un livre avec l'imaginaire du coin du feu et de la théière.
Absolument.
C'est assez féminin comme genre.
Absolument, c'est vrai.
Vous parlez des lecteurs ou des auteurs ?
Je parle des deux.
Un petit peu des deux.
Des deux, parce qu'en fait, ce sont souvent des autrices qui écrivent des cosy mystéries, effectivement.
Et en tout cas, cette année, nous sommes très contents d'avoir une parité parfaite. Donc, entre hommes et femmes.
D'accord, qui, parité, par voilà. contre, non respectée sur les ondes de Radio Béton, puisque aujourd'hui, je ne recevrai que,
oui.
que des autrices.
Voilà. C'est vrai,
oui, nous
c'est
avons
vrai,
marqué.
C'est
vrai. Tiens,
c'est vrai.
Est-ce que c'est lié au thème Cosy Mystérie ou est-ce que c'est le hasard ?
Sans doute, oui, oui, je pense.
C'était par rapport déjà
à l'équipe.
Je voulais faire moi aussi un focus sur les Cosy Mystérie.
Oui.
Donc,
ça semblait logique. C'était effiné, voilà. Absolument.
Et on vous en remercie.
Et donc, il y a eu aussi une invitée d'honneur.
Mais oui, Claudine, oui, Chollet,
Claudine Chollet,
Nicole, qui est donc ici avec moi, fait partie de l'équipe qui a créé Polar sur Loire il y a 9 ans. Et notre invitée d'honneur, Claudine Chollet, faisait partie du petit
Tout
groupe
fait.
De 3 auteurs, mm-hmm. avec Denis Soubieux qui est également présent, qui ont créé Polar sur Loire il y a 9 ans. Donc, comme Claudine écrit des cosy mystéries à travers sa série Polycarpe Houle, on a souhaité qu'elle soit notre invitée d'honneur. Et vous allez l'interviewer, je crois.
Oui, oui, tout à fait, voilà. Bien sûr.
Oui, bien sûr.
Mais bien sûr, incontournable.
J'ai compris que c'était un ordre.
Ah, c'est un souhait.
Un conseil.
Un conseil et un souhait.
D'accord. Et donc, pour cette prochaine édition 2026, vous avez déjà des scoops à nous annoncer ou tout est encore secret?
On partirait bien sur le vin.
Oui, on partirait bien sur le vin, tout à
mais
fait.
On trouve que polar épinard, ça rime pas mal, en fait.
D'accord,
ce serait,
mais
voilà.
C'est encore en discussion.
C'est, voilà, c'est. En tout cas, ce sera certainement à peu près à la même période, donc juste avant les fêtes, et c'est une bonne période pour ce aussi que des lecteurs et lectrices puissent avoir envie de faire des cadeaux. Donc,
les cadeaux de Noël se préparent maintenant.
Voilà, tout à fait.
le milieu des auteurs et autrices. Le milieu du polar a fait partie d'un cercle ou c'est vraiment comme ça un hasard que...
Alors, le milieu des auteurs, c'est quand même un cercle parce qu'on a un travail assez solitaire. On est en général assez content, sauf peut-être voilà les ceux qui sont des têtes de vente, qui sont des cas assez particuliers. Mais les auteurs sont assez contents de relations interprofessionnelles, d'échanger entre eux, de se passer même des informations ou de plaisanter ensemble. Quoi. On est toujours
Absolument.
Heureux de se retrouver. Mmh, mmh. On fait un travail assez solitaire. Mmh.
D'accord. Et donc, oui, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de club des auteurs et autrices qui se voient.
Pour le plaisir.
Pour le plaisir.
Parce qu'il y a évidemment des associations et même un syndicat, hein, qui est la Ligue des auteurs professionnels, qui là, pour le coup, ne comprend à ma connaissance que des auteurs publiés à compte d'éditeurs, je ne dis pas de bêtises. Là, c'est carrément un syndicat d'auteurs. Moi, je fais partie de la charte des auteurs illustrateurs jeunesse, qui est une association représentative. Voilà, mais ce sont des structures qui ont des buts. Il y a peut-être des associations qu'on ne connaît pas d'auteurs de polar. Mais
en tout cas, oui, d'auteurs de polar, puisque donc autrement notre salon est chapeauté par Signature Touraine, hein, qui est une association d'auteurs et d'autrices, mais
et d'éditeurs.
Et d'éditeurs également, voilà. Bien sûr, mais pas spécifiquement autour du polar. Mais voilà, donc là, on a des réunions assez régulières où on se retrouve.
Quand on est auteur, donc il faut écrire des livres. Et il faut aussi, on est obligé de faire aussi de la promotion du livre.
Je suppose que
l'éditeur ne fait pas tout.
Eh ben, tout dépend vraiment si on est à compte d'éditeur ou à compte d'auteur. C'est sûr qu'à compte d'auteur,
il faut
démarcher soi-même les librairies qui acceptent de prendre des livres en dépôt. Il faut essayer de se faire connaître de la presse. Normalement, quand on est à compte d'éditeur, ce qui est mon cas, tout cela est délégué à l'éditeur, mais avec votre active participation. Il y a même des contrats qui prévoient que l'on accepte par avance de se rendre dans des émissions radio, à la télévision, etc., etc. Dans la mesure du possible, évidemment, en fonction de son âge, de ses disponibilités, de la région. Mais normalement, c'était quand même à l'éditeur, déjà par sa diffusion nationale, et puis par ses relations avec les librairies, les radios, télé et autres, de faire la communication.
Absolument. Très bien. Eh ben, merci à toutes les deux.
Merci à vous.
Merci.
Voilà. Et puis,
on va passer.
À bientôt.
D'accord. Et puis, à tout à l'heure, puisque de toute façon, vous reviendrez en deuxième semaine pour parler de
Je
votre livre.
Je n'osais le dire, mais à tout à l'heure.
Très bien. On va accueillir la prochaine autrice qui va s'installer dans les studios de Radio Béton qui sont donc déportés aujourd'hui en direct du Salon du Polar. Claudine Chollet, bonjour. On est là pour Polycarpe, hein, puisque vous êtes l'invité d'honneur.
Oui.
Vous êtes l'invité d'honneur et donc on est là pour le 9e épisode le 9e bouquin de la série, hein, qui s'appelle Villa Violette, édité chez Tutti Quanti et paru en 2020.
Voilà. Depuis, c'est passé beaucoup de temps. J'ai commencé à, enfin, j'ai eu des petits ennuis de santé, puis j'en ai commencé un, mais il avance doucement.
Il avance doucement. Bon, alors, dans ce 9e tome de la série Polycarpe, hein, Claudine Chollet nous propose une intrigue mouvementée autour d'un hommage à Violette Parker, hein, écrivaine locale disparue. Une fondation littéraire organise un prix littéraire en son nom, mais lors de la soirée de remise des prix, les choses vont rapidement dégénérer. Meurtres, suicides et même des occupations de rond-point viennent perturber l'événement. Polycarpe Houle, vétérinaire retraité, détective, bien malgré lui, revient pour mener l'enquête. Il n'est pas seul. Son neveu Ernesto joue un rôle important. Et cette collaboration apporte un vent de jeunesse au récit. Alors, vous mettez donc Polycarpe. Quel drôle de prénom déjà,
Polycarpe. Oui, alors, il a une histoire ce Polycarpe. C'est-à-dire que je cherchais un nom qui soit dans la lignée des prénoms des détectives du début du 20e. Alors, on a Hercule, on a, bon, ça me sort de l'esprit là, mais plein de noms comme ça qui sont un petit peu Arsène, etc. Oui. Donc, je voulais un nom qui marque. Et moi, j'ai connu un Polycarpe.
Oh.
Voilà, j'ai connu un monsieur qui s'appelait Polycarpe, très sympa. Donc, ça m'est venu à l'esprit.
Est-ce qu'il était vétérinaire ?
Non, il était ouvrier d'usine.
Bon, en tout cas, donc, votre Polycarpe, lui, est vétérinaire, retraité. Est-ce que c'est plus amusant de faire, de mettre en scène hein, comme ça un retraité plutôt qu'un, si c'était un policier ?
Alors, moi, il n'y a pas de policier dans mes romans.
Vous n'aimez pas la police ?
Oh, j'ai rien contre les polices. Non, mais je fais. En fait, c'est pas du. C'est un détective occasionnel, et je l'ai pris retraité parce que il a toute une vie derrière lui. Et effectivement, on apprend dans les premiers épisodes que il a perdu sa femme. Il part pour une nouvelle vie dans ce petit village. Il se fait des amis, et c'est ce qui m'intéresse, c'est de faire vivre une communauté. Voilà, d'une communauté d'amis.
Les jeunes construisent des mondes virtuels sur leurs ordinateurs.
Voilà.
Vous construisez un monde virtuel en écrivant.
Voilà, c'est ça. C'est ce D'accord. que j'ai. Je ouais. voilà pour fuir un petit peu le réel, on se crée une vie virtuelle.
Mais ce Polycarpe quand même, dans un petit village, il est quand même soumis. Contraint à résoudre plein d'enquêtes. Il se passe beaucoup de choses dans ce petit village, mais grosse activité.
En fait, j'ai une lectrice une fois qui m'a dit, mais dites donc, il y en a des crimes dans ce village. Bon, mais c'est tout le monde sait que c'est un jeu en oui. fait. Hein, voilà. Mais pour à propos de Polycarpe, il y a quand même une chose qui est amusante, c'est que Flaubert, j'ai appris ça après, signait quelquefois ses lettres Polycarpe parce que il se comparait au Polycarpe du premier siècle après Jésus-Christ. Qui disait toujours pourquoi est-ce que Dieu m'a fait vivre dans cette c'était un évêque pourquoi Dieu m'a fait vivre dans ce siècle infernal et lui Polycarpe il est un petit peu comme ça il n'est pas content de son époque.
Alors Polycarpe il remet aussi en cause le statut d'écrivain il oppose le statut d'écrivain à ceux qui sont auto-édités je le cite hein, qu'est-ce qui définit un écrivain sinon la garantie donnée par une maison d'édition ayant pignon sur rue qu'il est digne d'être publié et commercialisé. Alors, et vous, oui. vous êtes un petit peu...
Je suis en porte-à-faux avec ça.
Oui.
Parce que moi, je suis auto-édité. Enfin, j'ai créé ma petite maison d'édition pour me publier après un passage dans l'édition traditionnelle.
D'accord.
Pour mon premier livre, qui était un poulpe. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Si, bien sûr que si. Avec Jean-Bernard Pouy.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Donc, j'avais écrit un poulpe.
Oui, oui.
Et donc, en fait, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire une série parce que je pensais que les gens s'attachent au personnage, soit ils s'y attachent soit pas,
oui, oui.
mais s'ils aiment le personnage ils ont envie de continuer, et
c'est
moi
vrai,
aussi j'avais envie de continuer.
Non, mais c'est vrai que ce Polycarpe
oui.
je ne les ai pas tous lus mais oui. j'en ai lu plusieurs de
ah
la
bon
série,
bah
oui.
Ah bah bravo.
Voilà. Et il y a aussi Flora, oui. Un des personnages
oui.
de votre livre, là, une vieille dame un peu décalée, on va dire, hein, et qui déclare il ne faut jamais amalgamer le sexe, le couple et l'amour. Tout le mal vient de là. Depuis le temps que je le dis, je ne vais quand même pas poser des banderoles dans les rues pour promouvoir l'amour libre. Qu'est-ce que c'est que cette immoralité?
En fait, ça, c'est mes vieux restes de 68.
Ah, d'accord.
L'amour libre. Non, mais en fait, j'ai fait que des personnages qui sont décalés, quoi, qui sont pas complètement dans la norme. Et Flora, je dirais que dans tous les personnages, il y a un petit peu de moi.
D'accord.
Mais bien sûr, je pousse le trait un peu loin. Et là, Flora, c'était une femme qui a été go-go girl. Et puis maintenant, c'est une bonne grand-mère, quoi. Mmh. Elle est homosexuelle. Elle est, voilà, elle aime le tricot. Elle aime les amis. Enfin, voilà, c'est une personne qu'on aura envie d'avoir comme copine, quoi. Mmh.
Hein. D'accord.
D'ailleurs, tous, j'aurais envie de les avoir comme copains.
Mais, et je vous cite encore, hein, à propos d'Evelyne, la lauréate du prix Walker,
ah
justement,
oui.
Qui dit, ses lecteurs et majoritairement ses lectrices essayaient de deviner jusqu'à quel point elle nourrissait ses personnages de ses blessures intimes. Ils espéraient percer le mystère de cet ingrat pensum que tout auteur s'inflige en remplissant des pages qu'il biffe et réécrit dans la plus aride solitude, alors qu'il y a tant de choses amusantes à faire et intéressantes à voir dans le vaste monde où brille le soleil.
Oui.
Alors... Oh, mais alors que c'est triste d'être écrivaine, c'est ça?
Non, mais c'est un vrai travail. Voilà, c'est pas, souvent on imagine que les auteurs, ils sont là dans leur bureau tranquille en robe de chambre en train de boire des cafés, etc. Donc c'est un vrai travail. Mais c'est drôle parce que la manière dont tu lis je me rendais pas bien compte là, je redécouvre ce que j'ai écrit. Parce que c'est vrai qu'on écrit dans, je dirais pas un état second, mais je sais pas, on n'est pas le même quand on écrit et dans la vie.
Bon.
Voilà.
Eh ben, merci Claudine pour ce court entretien. Voilà.
Merci bien.
Et donc, Polycarpe numéro 9, Villa Violette, est à retrouver aujourd'hui.
Aujourd'hui, hein, sur le salon. Voilà. Merci beaucoup.
Ou dans toutes les bonnes librairies.
Oui, aussi.
Voilà. Merci Claudine.
Merci beaucoup.
Et nous, on va se faire une première pause musicale avec un extrait de La Rouda et Profession détective.
Marvin, j'admets le pseudonyme et d'un peu frime, mais c'est l'eau d'un privé. Privé de sublime. Que serait un vrai lui dans les films, il se fait appeler Marlowe. Un crime, ça y est, je l'ai, une balance la veille, à basculer dans le grand sommeil. Et quand les poules à gabiétine qui appelle ton résultat de l'énigme. Ah, ma vie, ah, je tire mes affaires au clair et ma secrétaire. Ah, ma vie, ah, admire le savoir-faire de mon frère Tradine. Sur les lieux du délit, c'est pas joli à voir, un vrai bordel. À la fois j'exprime, à la magrelle, mais gré et mon désir que ce soit mieux rangé. Puis je la cuisine, elle me roule dans la farine. Oh Marvin, et tout le mal qu'on devine. Inutile, je suis incorruptible, mais dans son linolibide, on lui vient d'un alibi en béton. Et cette question au cœur de ses drames, mais qui a tué Parker Horror? Il n'y a pas de hasard, tout mystère. Tronçonné, mitraillé et en même temps au moment du crime était présent, droit type en sang et armé jusqu'aux dents. D'emblée je devine, oh je suis une vraie machine. Je crois qu'il y a là un indice, les trois sont complices. Ils ne me feront pas croire qu'ils mettent à l'improvise. Ah non, tout est énigme, une solution. Tout est question de discipline. Le grand Marvin. Pendant la divine intuition, donc je
procédons à l'interrogatoire. Le premier me dit par cœur, a passé l'arme à gauche. Il était droitier, erreur, il éclata en sanglots. Le deuxième me dit par cœur, a dû casser sa pipe. Il ne fumait pas, erreur, il dit damnette, je suis pris. Mais la plus étrange fut la rencontre du troisième type. Il a rejoint les anges, me dit-il, puis il la voit tout de suite. Avait-il compris, par cœur n'y croyait pas. Il est des phénomènes parfois que l'on n'explique pas. Voilà,
encore une vie.
Voilà, on se retrouve toujours sur le salon Polar sur Loire. Voilà, il est 12h20 et quelques minutes secondes. Voilà, on se retrouve avec Béatrice et Gémar qu'on avait tout à l'heure pour parler du salon.
Oui.
Mais là, maintenant, on va parler de son livre, Chère Jeanne Austen, tome 1, Commérage et Confusion, paru aux éditions City. Voilà, paru tout récemment en septembre 2020.
Oui, en septembre.
Voilà, alors. Il nous raconte l'histoire de Anne Spencer, une jeune fille romantique qui adore lire et qui part chez sa cousine pour l'aider. Elle découvre et dévore les romans de Jeanne Austen au point de lui écrire et contre toute attente de commencer un échange épistolaire avec Jeanne Austen. Elle lui raconte sa vie, ses espérances suite à sa rencontre avec le beau et ténébreux Frank qu'elle prend pour son monsieur Darcy. Voilà. Un décès soudain et suspect du curé local va transformer Anne en une enquêtrice que n'arrive pas à tempérer Jeanne Austen. L'écriture est fluide et captivante, le carcan victorien bien décrit et le rebondissement final très bien amené. Voilà.
Merci.
Bon, je dois vous avouer, hein, ma forfaiture, je ne connaissais pas Jeanne Austen.
Ah, mais quelle honte.
Jamais lu. Voilà.
Non, mais donc, vous n'êtes pas seul.
Un peu embêtant quand on doit rencontrer l'autrice de Chère Jeanne Austen. Heureusement, Arte a diffusé récemment Miss Austen, une mini-série qui permet de se mettre à jour sur Jeanne Austen.
Oui.
Et sur les codes de l'époque victorienne, justement. Donc, votre livre est sorti pratiquement en même temps. Hein. Est-ce que c'est un hasard?
En fait, pour moi, c'est un hasard parce que c'est un livre que j'avais envie d'écrire depuis 10 ans. J'ai commencé à l'écrire il y a 2 ans et au moment d'envoyer le manuscrit en recherche d'éditeur, j'ai découvert que c'était les 250 ans de l'anniversaire de la naissance de Jeanne Austen et c'est pour ça qu'effectivement, on parle beaucoup d'elle et qu'il y a des livres et cette série, Miss Austen, qui sont sortis cette année-là.
D'accord, donc c'est un hasard.
Pour moi, c'est un hasard complet, oui. Oui.
D'accord. Et on retrouve très bien l'ambiance de cette époque, hein, victorienne,
non,
qui est un peu bizarre.
Là, je suis désolée, c'était avant Victoria.
Oui.
C'est la Régence, ce qu'on appelle Regency. C'est-à-dire, pour nous, c'est la période quasiment napoléonienne. Les frères de Jeanne Austen se sont battus contre les troupes françaises dans les guerres napoléoniennes. Et en fait, c'est quand même quelques années avant l'impératrice Victoria.
D'accord, mais il y a quand même un carcan.
Il y a un carcan. Je crois que le carcan était plus fort à l'époque victorienne qu'à l'époque Regency.
D'accord.
Elles avaient un peu plus de liberté quand même à l'époque. Mon roman se situe en 1814, donc après, en pleine chute napoléonienne. Et les vêtements étaient plus souples. Les jeunes filles avaient sûrement plus de liberté qu'à la fin du 19e, à l'époque de Victoria.
Et donc, pour ce livre, vous avez été obligé de faire une grosse recherche historique, justement.
Oui, mais c'est ça qu'on adore. Enfin, si vous discutez avec d'autres auteurs de romans historiques sur le salon ou ailleurs, c'est la période des recherches. Quand on fait des recherches historiques et qu'on trouve des choses qui vont nous inspirer pour nos livres, c'est presque le meilleur moment pour un auteur, quoi. Donc oui, j'ai fait beaucoup de recherches.
Donc,
comment était la vie?
D'abord, il faut relire toute l'œuvre de Jeanne Austen.
Oui, mais en fait, elle a 6 romans qui ont été publiés. La pauvre est morte à 41 ans, je crois, très jeune, alors qu'elle avait encore beaucoup de choses à écrire. C'est toujours un plaisir de relire ses romans. Oui, et dans ses romans, il y a beaucoup de détails pratiques sur la petite aristocratie anglaise et dans laquelle se passent ses livres et dans lesquels je situe le mien, oui.
D'accord. Et donc, ça, c'est une période qui vous fascinait, intéressait?
Ce sont ces livres qui m'ont... J'ai eu un gros coup de cœur. J'ai découvert Jeanne Austen assez tard, oui, il n'est jamais trop tard, à partir du film d'Ang Lee, Raison et Sentiment. Et j'ai lu évidemment toutes ses œuvres et je les relis régulièrement. C'est un délice. Elle a une finesse et une ironie et une distance par rapport à ses personnages qui est très drôle. Et souvent, on croit, comme vous, qu'elle date de l'époque victorienne, plutôt de la fin du 19e, tellement que ça paraît moderne, quoi.
Et vous n'hésitez pas donc à mettre en scène Jane Austen.
Alors, je la mets en scène. Je voulais pas la mettre en scène comme personnage principal. Ça me paraissait pas vraisemblable. Par contre, à l'époque, elle écrivait de manière anonyme. Ses livres étaient signés A Lady, ce qui était déjà audacieux. On savait que c'était pas un homme. Mais son anonymat en 1814 commençait à fuiter. Donc c'est tout à fait vraisemblable. Elle avait reçu quelques lettres d'admirateurs et d'admiratrices ou même de critiques de ses livres. Et j'imagine qu'elle reçoit le courrier de cette jeune admiratrice Anne et qu'une correspondance ensuit, puisque Anne lui écrit une lettre pleine d'admiration en signant... elle termine sa lettre en disant « Bien sûr, j'attends pas de réponse, mais elle met quand même son adresse. » Donc, ça veut dire qu'elle serait ravie d'avoir un courrier de Jane Austen. Donc, c'est à la fois un cosy mystery, un livre dans lequel il y a une petite enquête policière et un roman épistolaire, puisqu'il y a un échange entre mon héroïne et Jane Austen.
Mais c'est un pari risqué, quand même, de mettre en...
C'est un pari risqué, oui.
De toucher au mythe.
Mais oui, parce que Jane a des fans... absolue, dont je fais partie, qu'on appelle les Janéites. Hein. D'ailleurs, il y a un mot qui existe exprès pour ça. Mais j'ai vraiment... j'ai lu, bien sûr, la volumineuse correspondance de Jane pour savoir comment elle écrivait, quelles étaient ses tournures, comment est-ce qu'elle terminait ses lettres. Donc, j'essaie de rester le plus fidèle possible. Et puis, elle apparaît quand même de loin dans le livre. Elle n'est pas personnage principal.
Bien sûr. Mais on touche quand même... voilà.
Mais on touche au mythe. Et oui, mais les auteurs prennent des risques.
Et... puisqu'il s'appelle tome 1, ça veut dire qu'il va y avoir un tome 2 ?
Oui, je suis dessus. Le tome 2 s'appellera « Saphir et suspicion » et sortira au printemps et reprendra Anne en personnage principal. D'accord. Mais cette fois-ci, elle va quitter la ville de Guildford pour aller à Bath, qui est aussi une ville emblématique dans la vie et dans l'œuvre de Jane Austen.
D'accord, donc on continue avec Anne Spencer.
On continue avec Anne Spencer, exactement.
Bon, très bien. Il sort quand alors ?
Il sort en avril. En avril. Normalement, oui.
D'accord. Donc...
je dois rendre le manuscrit avant Noël.
Oh bah, voilà. Vous, parce que c'est bientôt. Hein.
Oui, ne me dites pas ça, n'ajoutez pas à mon stress.
Bon, merci beaucoup, Béatrice.
Merci beaucoup à vous, je vous remercie.
Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Eh bien, mets-moi une petite pause musicale, vas-y.
Cry, 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 cry
Voilà, on est au Salon Polar sur Loire avec Nicole Parlange.
Bonjour.
Rebonjour. Et donc là, on va parler maintenant de votre livre, hein, « Trois graines mortelles » paru chez Execo, paru en juin 2025.
Tout à fait.
Alors, c'est un roman policier qui se déroule à Tours, hein, dans le quartier Saint-Symphorien, autour d'un repas de Noël réunissant 13 personnes, un chiffre lourd, symbolique. Et ce qui commence par une fête familiale, amicale, hein, bascule très vite en drame. L'un des convives est retrouvé mort, acte qui déclenche une enquête au sein du huis clos du domaine de Bellevue, enquête à rebondissement et avec un très beau final.
Voilà. Très bien.
Alors, vous avez écrit pas mal de romans policiers, historiques plutôt.
Tout à fait, historiques, oui.
Mais donc, pour votre dernier, l'action se situe de nos jours et à Tours, dans le quartier Saint-Symphorien, je l'ai dit. C'était une contrainte que vous étiez fixée ?
Alors non, c'est pas du tout une contrainte. C'est au contraire un plaisir, un petit moment de récréation. Hein, c'est-à-dire que d'habitude, comme j'écris des polars historiques et que je suis très vigilante sur tous les aspects avérés historiques, je fais des recherches conséquentes avant de me lancer donc dans un polar. Et donc là, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir en écrivant ce polar contemporain dans un lieu que je connais bien puisque c'est mon quartier, le quartier où j'habite. Et donc je me suis lancée dans l'aventure avec curiosité et vraiment plaisir réel, et j'ai dégusté mon polar au fil de l'écriture.
Parce que dans le memento qu'il y a en quatrième de couvre, là, il y a un certain nombre de... Alors, oui. Moi, j'ai pris ça pour des contraintes d'écriture. Vous étiez dit, je vais faire quelque chose qui se passe à Saint-Symphorien, à Noël.
Non, voilà. Donc, non.
Très à table.
Donc, alors, il y avait aussi une volonté de répondre, de cocher les cases de ce cosy mystery, hein. Donc, c'est-à-dire de faire quelque chose dans un lieu clos, sur un laps de temps assez court, avec des gens qui se connaissaient. Donc, mais très vite, ce qui m'est apparu, je ne sais pas pourquoi, c'est le personnage de la vieille Angèle. Et à partir de ce personnage, j'ai construit assez naturellement cette histoire, proche de mon lieu de vie. Et donc, j'aime bien aussi repasser et imaginer tout ce qui pourrait se passer derrière.
Parce qu'on sent dès le début qu'il va se passer quelque chose,
oui.
Que l'atmosphère est un peu bizarre, entre guillemets, mais on ne sait pas du tout de quel côté ça va tomber. Voilà.
Tout à fait. Hein, c'était, voilà, absolument. Et donc, et qui est cette vieille Angèle, qui est quand même le cœur de l'histoire, hein, donc, dès le départ, puisque c'est elle qui débute et qui termine le polar. Hein, donc,
Très à table, vous êtes superstitieuse ou pas
un
du
petit
tout
peu. C'est vrai. J'aime pas beaucoup, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, je ne suis pas forcément ravie.
Mais écrire un livre justement sur ce chiffre 13, oui. Ça ne peut pas porter malheur, ça.
Ah, j'espère que non. Et je lui souhaite longue et belle vie à ce livre-là.
Alors moi, j'étais un petit peu frustrée à la lecture, parce que j'aurais presque voulu en savoir un peu plus sur le personnage de Martin, dont on sent bien qu'il a des failles lui aussi, qu'il est une histoire pas simple. Et
donc effectivement, mais je voulais le dessiner à grands contours, puisque comme je vous le disais, c'est plus le personnage d'Angèle qui m'a accrochée, et ce personnage de Martin, je le voulais effectivement, comme vous dites, avec des failles, mais qui reste aussi quand même assez mystérieux, hein, donc et qu'on n'en sache pas trop sur lui finalement.
Ah, c'est voulu
donc,
alors.
Voilà, c'était voulu, tout à fait.
Et l'autre frustration, c'est que, bon, sans trop vouloir spoiler quand même, mais le méchant s'en sort bien, quoi. Alors, là, c'est ni mort, c'est ni prison, ni. Mais c'est complètement immoral,
Oui, tout à fait.
Normalement, c'est pas une règle dans les cosy mystery que ça soit.
Non, mais il est méchant, mais il n'a rien fait de mal, hein, non plus. Donc, finalement. Il aurait dû mourir à la place d'un autre, mais Je n'en dirai pas plus pour ne pas révéler.
Ne pas divulgâcher.
Voilà, c'est ça.
Non, mais très, très, très bon livre. Et vous en avez un prochain en route, là?
Alors, donc là, pour l'instant, là, je suis sur un autre type d'écriture qui est une pièce de théâtre à quatre mains avec donc un auteur qui a déjà écrit des pièces de théâtre. Qui, ça va s'appeler donc « Le parfum des camélias ». Et nous revisitons de façon, humoristique, le mythe de Marguerite Gautier, la Dame aux camélias. Et nous voulons que cette Marguerite, qui en fait n'est pas morte, donc puisse se venger de la mauvaise manière, de la méchante manière dont l'a traité Alexandre Dumas fils.
Sacré challenge, parce que c'est écrire pour le théâtre, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais c'est quand même, c'est assez éloigné quand même.
Si, vous avez complètement raison, c'est une écriture complètement différente et donc qui m'oblige justement à revoir la façon dont j'écris et ça je trouve ça très stimulant.
Parce qu'on ne doit plus décrire, ce ne sont que des dialogues.
Tout à fait. Donc on est sur des répliques, il faut que ce soit des répliques courtes, assez mordantes, etc. Donc on est sur un tout autre type d'écriture, mais je trouve ça très intéressant de se confronter à autre chose.
Ça, donc, plus écriture à quatre mains qui est elle aussi
un challenge. Ouais. Donc voilà, alors j'espère pouvoir...
Vous aimez la difficulté.
Voilà, l'année prochaine, vous reparlez. Donc on devrait avoir terminé l'écriture d'ici la fin de l'année 2025. Et donc ensuite, j'espère qu'on pourra jouer cette pièce surtout.
Oui.
Voilà.
C'est tout le mal qu'on lui souhaite à cette pièce. Cette future.
Je vous en remercie.
Merci beaucoup, Nicole Parlange.
Merci.
Hein,
à
je
vous.
Rappelle, 3 graines mortelles, paru aux éditions Ex Aequo. Voilà. Merci. Voilà. On reçoit donc Elisabeth pour, qu'on avait déjà vu il y a 2 ans, donc, ici même pour le Salon Polar sur Loire, qu'on a vu aussi cette année dans nos studios avec Olivier Pion. Voilà. Et là, on reçoit pour Chou Fatal, paru chez Calmant Lévy, en février de cette année. Alors, avec Chou Fatal, Elisabeth Segar poursuit sa série de Cozy Crimes mettant en scène Violette Laguille, qui est invitée au château de Valençay où se réunit le jury du prix Antonin Carême. On peut mourir en dégustant des pâtisseries, en en mangeant trop, mais il faut y aller. Hein. Ou alors, si le gâteau est empoisonné. Hein. Et à cause du mauvais temps, la police tarde à intervenir et patauge, mais pas Violette Laguille, un nouveau polar d'Elisabeth Segar qui mélange l'humour et enquête sans le moindre grumeau. La cuisson est parfaite.
Merci Pascal.
Donc avec Chou Fatal, on retrouve avec bonheur Violette Laguille, hein, qu'on avait quitté le dernier, c'était Un futur plus que parfait, c'est celui-là
le dernier, tout à fait, futur plus que parfait, qui se passait entre la Touraine et Paris.
Voilà. Hein, et donc, est-ce que c'est amusant de propulser ces vieilles dames dans des situations rocambolesques?
Oui, parce que ça permet d'avoir un regard un petit peu décalé, de montrer aussi des comportements un peu étonnants. Et Violette, comme c'est une vieille dame, c'est un peu comme les enfants, les personnes âgées, les enfants ont ce point commun d'oser souvent dire les choses ou regarder les choses un peu différemment, sans avoir peur du regard de la société ou du qu'en dira-t-on.
L'intrigue se situe donc dans le château de Valençay. Ils sont pas bien, les châteaux de Touraine?
Alors, ils sont très bien, mais justement, c'est le dernier château de Touraine. Enfin, c'est le plus éloigné. C'est d'accord. Celui qui est considéré comme le dernier château de la Loire. Voilà, là, tout à fait. On est à la limite. Mais je me suis dit, bon, soyons sympas. Parlons à nos amis du Berry.
La condescendance tourangelle.
Voilà. Tu sais ce que c'est. Mais non, en fait, c'est que c'est un château tellement beau et qui est pas très connu. Et puis, qu'il y a quand même une histoire folle avec Antonin Carême, avec Talleyrand. Je me suis dit, ça vaut le coup de le mettre en scène de façon un peu rigolote.
Donc, tu as été obligé de squatter le château, de le visiter dans ses moindres recoins.
Je l'ai visité à plusieurs reprises et j'avais eu la chance d'avoir une petite visite privée avec un des employés à l'époque. Donc, ça m'a aidé à faire un peu les coulisses du château.
Et du coup, comme on parle quand même beaucoup de nourriture dans ce livre...
On ne parle presque de ça même.
T'as été obligé de te taper tous les étoilés du coin pour pouvoir te revisiter la cuisine dictée par Antonin Carême.
Hélas, non, j'ai pas pu me faire les étoilés. Par contre, j'ai ma fille qui avait fait un CAP pâtisserie, donc du coup, ça m'a donné quand même des petites infos de première bourre sur le métier.
D'accord, donc il y a bien une différence entre la génoise et le biscuit joconde.
Ah bah bien sûr qu'il y en a une.
Mais parce que dans tous tes livres, il y a beaucoup d'annotations, de, enfin, d'apartés, de digressions, ne serait-ce que le titre des chapitres, voilà, le, et puis ces annotations sans arrêt, qui sont très rigolotes. Et donc, c'est quoi la différence entre la génoise et le biscuit Joconde? C'est, c'est un secret ou?
Non, en fait, la génoise est légèrement plus souple et moelleuse. Biscuit Joconde, t'as un petit peu de noisette et tu le sens. D'accord. Et du coup, il est un peu plus dense et, voilà, c'est souvent utilisé comme base sur des entremets. Mais c'est vrai que les annotations, j'aime bien. J'ai l'impression de parler au lecteur, d'être avec le lecteur, en fait.
D'accord.
L'idée, c'est qu'on écrive le livre un peu à deux avec le lecteur.
Et donc, je me suis dit, mais t'as dû aussi te taper toute la série Top Chef pour pouvoir...
Non, je déteste Top Chef. Mais justement, parce que je trouve qu'il y a un côté très artificiel. Et c'est un peu le sujet du roman, c'est montrer les coulisses de la... On va dire de la, ce qu'on appelle la haute pâtisserie aujourd'hui ou de la gastronomie, montrer que c'est pas si facile que ça, que vraiment les émissions de Top Chef, à la fois elles ont fait du bien parce que ça a attiré des jeunes vers des métiers de la cuisine, etc. Mais en même temps, elles font aussi beaucoup de mal parce qu'elles véhiculent une image très artificielle et ça occulte énormément de contraintes vécues par, par les pâtissiers, les cuisiniers. Et ça, c'est un peu dommage.
Et donc, on apprend aussi des que j'ai appris que c'est
les colorants sont mauvais pour la santé.
Que c'était le Auguste Escoffier qui avait inventé la tomate concassée en boîte.
Mais vraiment, je le remercie. Il me sauve la vie. Je pense à lui quasi tous les jours. Bah, chaque fois que je fais une sauce avec des tomates en conserve.
On est bien d'accord. Donc, grosse phase de recherche, ou c'est des choses que tu savais déjà?
Non, alors il y avait quelque chose que je savais, mais j'ai fait aussi des phases de recherche. J'ai été notamment à la bibliothèque de la Villa Rabelais à Tours, parce qu'ils ont quand même un super fond de livres sur la cuisine. Donc ça m'a permis, c'est là que j'ai découvert Escoffier, Antonin Carême, etc.
Oui, c'est vrai que, d'ailleurs, tu en parles un petit peu dans le bouquin de l'Institut de... Comment ça s'appelle? L'Institut de l'alimentation?
Tout à fait, oui.
C'est pas le vrai nom, c'est...
Non, le vrai nom, c'est Institut des Hautes Études...
IEHC.
Oui, bon, ils nous en voudront pas, oui. On les aime.
Mais c'est vrai qu'il y a une très très belle bibliothèque.
Une très belle bibliothèque, des rencontres aussi avec, oui, des auteurs, avec des chefs, c'est vraiment sympa. Et ici, je pense que ça nous parle tous, on peut s'engueuler sur plein de sujets, politiques, sociétaux, etc. Mais dès qu'on parle rillettes, fromage ou pâté, là je pense que tout le monde est...
Oh, okay. Il peut y avoir quand même des bastons, hein, entre la rillette de Tours et celle du Mans.
Oui, mais ça,
la hache de guerre n'est pas tout à fait enterrée.
C'est vrai.
Des projets de nouveaux bouquins?
Alors oui, un nouveau qui va sortir, mais l'année prochaine, l'automne prochain. Et pour le coup, ça sera pas du tout Antoine. Je fais une petite infidélité. Ça va se passer à Paris, au cimetière Montparnasse, autour des grandes personnalités qui sont enterrées et qui vont un peu vivre leur vie. On va les regarder évoluer.
Et t'as participé l'écriture du roman qui parle de la dame qui s'est fait arnaquer par Brad Pitt, par un faux Brad Pitt.
Oui, la maison d'édition m'a appelé pour me demander de l'aider à écrire son témoignage. Alors ça, c'était vraiment une expérience complètement différente, puisque là, on n'est pas du tout dans la fiction, malheureusement. Ça a été
Il est paru en septembre, c'est ça?
Oui, il est paru fin septembre. Elle l'a intitulé « Je ne serai plus une proie », parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre comment, quand on est à un moment M, en état de faiblesse, on peut gober tout et n'importe quoi si c'est bien enrobé. Et malheureusement, ça n'a pas été la première. J'ai peur que ce soit pas la dernière non plus. Et ce livre, en fait, m'a vraiment fait comprendre... ça et la violence psychologique qu'on ressent, parce que les victimes se sentent coupables, parce qu'on leur dit mais t'es trop bête, comment t'as pu le croire, mais c'est comme une femme battue en fait, mais pourquoi tu le quittes pas, mais en fait quand t'es dans le truc tu te rends pas compte et tu te sens à la fois aussi tellement humiliée et tu te dis mais personne me croira, enfin c'est très compliqué de se sortir de ce genre de situation, donc je l'ai trouvé hyper courageuse d'oser en parler.
Ton rôle c'était quoi? C'était de réécrire un petit peu.
Voilà, mon rôle en fait c'était de l'interviewer, de faire des entretiens avec elle, de voir exactement ce qu'elle voulait dire et puis de faire la petite main parce que elle c'est pas son métier d'écrire, donc on a vraiment réfléchi ensemble avec l'éditeur à ce qu'elle voulait dire, la manière dont elle voulait le dire, et après l'idée c'était que je l'écrive en gardant vraiment sa voix à elle, quoi.
Très bien. Merci beaucoup.
Merci Pascal.
Et donc je rappelle Chou Fatal, paru chez Calman Levy. Voilà, on va enchaîner, ou une petite pause musicale, Véro? Une toute petite pause musicale, et puis on retrouve Elisabeth Laurent, notre dernière invitée.
just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special, but I'm a creep.
Dernière invitée, on aurait eu que des autrices aujourd'hui sur le Salon Polar sur Loire. Et on va terminer l'émission avec Elisabeth Laurent, bonjour.
Bonjour.
Et qui, vous avez sorti l'énigme Théodora.
Oui, c'est cela.
Paru en juillet 2025, c'est ça?
Alors, c'est la deuxième édition en juillet 2025. La première édition date de septembre 2024.
D'accord. Et qui était paru d'ailleurs le même livre sous un nom légèrement différent.
Oui, c'est cela. Elle était parue sous un nom qui s'était... C'était Isabella Corsini et le diadème de Théodora.
Voilà. Donc, c'était la même histoire malgré tout.
C'est la même histoire, en effet.
Alors, l'histoire débute au moment où le diadème byzantin réputé de l'impératrice Théodora est dérobé lors d'un gala à Rome. Et à partir de là, Isabella Corsini, journaliste intrépide, se lance dans une quête aux côtés de ses deux amis, Julia et Vittoria, et de Luca Mandolo, un jeune comte craquant, mais qui a besoin d'argent. Voilà. Leur mission, résoudre les énigmes laissées par l'histoire, retracer un trésor perdu depuis le sac de Constantinople en 1204 et de démêler les complots qui entourent ce joyau. Leur quête les entraîne à travers les villes fascinantes comme Rome, Venise, mais aussi Istanbul, et les met face à des mafieux impitoyables ou une organisation secrète déterminée à protéger ses secrets à tout prix. Donc, il est édité en auto-édition.
Oui, c'est cela.
C'était un choix ou une nécessité?
Alors, c'est un choix, parce que j'ai eu plusieurs propositions d'édition. Oui. Des éditeurs à compte d'éditeurs, hein, pas de souci. Mais au moment de signer le contrat, parce que j'ai eu 3-4 propositions exactement, ça me gênait en fait de laisser mon bébé. J'avais l'impression de laisser mon bébé, de l'abandonner. J'avais tellement travaillé dessus, parce que j'ai commencé à le rédiger en 2013. Donc ça fait 10 ans déjà et je me sentais pas prête, donc j'ai fait le choix de l'auto-édition.
D'accord.
Voilà, c'est un choix en effet.
Choix courageux. Il est aussi en version anglaise?
Oui, il est aussi en version anglaise.
C'est ChatGPT qui s'est chargé de l'édition?
Non. J'ai comme je suis enseignante, j'ai des collègues qui parlent anglais, donc j'ai fait relire par des anglophones.
Parce que ça doit pas être un petit travail, parce que
non.
c'est un pavé. C'est pas une critique, hein, mais c'est un livre qui pèse son poids.
C'est ça.
Il y a beaucoup de pages et donc à traduire, ça doit être c'est un sacré boulot.
Oui, mais ça, on a pris du temps pour le faire et on l'a fait, voilà.
J'ai vu aussi sur la jaquette ou à l'intérieur qu'il était en édition à la demande, enfin impression à la demande, c'est ça?
Oui.
Ça veut dire que il est imprimé au moment de la commande, c'est ça?
Oui, c'est cela. Vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie, le commander et une semaine ou deux plus tard, vous l'aurez. Voilà, une impression à la demande.
C'est plus intéressant de faire comme ça que de commander en tant que auto, enfin financièrement, c'est plus intéressant.
Pour moi?
Oui.
Non.
Non.
Puisque dans l'impression à la demande, je suis pas honnête, hein, je gagne 1,43€. Donc non, c'est pas intéressant, mais ça permet à tout le monde de pouvoir l'acheter en librairie et pas seulement sur Amazon.
D'accord. La quatrième de couve aussi compare un peu le livre au Da Vinci Code.
Oui, ce sont ceux qui l'ont lu, qui l'ont comparé. Donc
C'est pas vous. D'accord. Tu dis oh.
Non. Les premiers lecteurs ont eu l'impression de retrouver l'univers de Dan Brown et pas que les premiers. À chaque fois, on me le dit. Alors il n'y a rien de copier des romans de Dan Brown, mais c'est dans l'aspect intrigue, peut-être le côté thriller ésotérique qui rappelle un peu l'univers de Dan Brown. Oui, mais je me compare pas moi-même.
Avec cette fameuse société secrète. Et
voilà,
tout ça,
c'est ça. Peut-être que ça leur a fait penser au Da Vinci Code.
Alors c'est une énigme complexe, hein, oui. Qui nous fait remonter au sac donc de Constantinople en 1204. Il a nécessité beaucoup de recherches.
Oui. Quand j'ai commencé en 2013 à le rédiger, on n'avait pas l'intelligence artificielle pour poser des questions. J'ai fait beaucoup de recherches sur ce sac de Constantinople, donc qui est le fruit de la quatrième croisade. La quatrième croisade qui n'aboutit pas à Jérusalem, mais qui est détournée à Constantinople et qui conduit à un véritable pillage. On en parle peut-être peu, mais c'est un pillage qui équivaut à plusieurs aujourd'hui milliards de dollars. Enfin, c'est des pans entiers de la culture gréco-romaine qui ont disparu, qui ont été volés à Constantinople en 1204. Voilà.
D'accord. C'est trop facile de faire ses recherches quand on est prof d'histoire ?
C'est facile, on sait où chercher, oui. Et puis synthétiser les informations, c'est plus simple. Après, le risque, c'est de tomber dans le cours d'histoire, dans ce genre de roman. Je sais que parfois, j'ai envie d'expliquer, mais c'est pas un cours d'histoire. C'est pas un livre historique, c'est un thriller, c'est avec de la romance, un roman d'aventure, et donc il a fallu que j'épure un peu les détails pour ne pas perdre les lecteurs.
Et l'intrigue se passe donc dans le présent, hein, oui. Autour de trois amis à Rome, confrontés à plusieurs bandes dangereuses. Et c'est parfois à la limite du crédible que trois filles en talons hauts et petits tailleurs tiennent la dragée haute à plusieurs bandes de mecs armés.
Bien sûr. Mais j'avais envie d'écrire une histoire à la Indiana Jones, mais je voulais pas de protagoniste masculin. J'avais envie de changer. Et puis, on peut avoir des protagonistes féminines, glamour, intelligentes. J'ai écrit le livre que j'avais envie de lire, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est pas... Elles sont pas en basket à courir après un trésor. Oui, des fois, elles ont des talons aiguilles à courir après un trésor.
Oui, parce qu'elles aiment la mode quand même.
Oui, c'est... oui, en effet.
Et c'est aussi presque un guide touristique parce qu'on apprend beaucoup de choses sur les villes où vont les mener l'enquête, hein, que ce soit les hôtels, les restaurants, les beaux endroits. Oui. Tout est bien écrit, hein.
C'est vrai. Alors c'est un peu à mon côté immersif et descriptif. C'est vrai que je décris énormément parce que ce roman, j'ai envie qu'on voyage dans le roman. Pour moi, c'est vraiment un voyage. Donc c'est vrai qu'elles vont, elles sont à Rome, elles vont à Istanbul, sans divulguer trop l'intrigue, mais elles vont aussi à Ravenne. Et à chaque fois, j'en profite pour décrire les bâtiments, les monuments, l'histoire des villes, et peut-être un peu de gastronomie aussi.
Et donc vous avez été obligée d'aller dans toutes ces villes ?
Pas toutes. Rome, oui, mais Ravenne, non. Je le regrette, mais Rome, j'y suis allée. Oui, ça permet de. Et d'ailleurs, la scène d'ouverture, c'est une scène vécue. La première scène, la première page que je décris avec l'histoire du serveur qui chassait le pigeon, c'est exactement ce qui s'est passé quand j'y étais. Et du coup, c'est de là que j'ai voulu. C'est à partir de là que j'ai fait la première page de cette expérience.
D'accord. Istanbul aussi, vous êtes...
Non, pas Istanbul. C'est dommage, mais non.
Voilà, mais à cause de vous, ou grâce à vous, je ne sais pas, mais mes prochaines vacances se passeront en Sicile. Car j'ai eu envie de visiter cette île en lisant votre livre.
Ah, merci, merci. J'espère que ça vous plaira, que vous ne serez pas déçus.
Ok, vous préparez un nouveau bouquin ou,
oui, je suis dans la rédaction du deuxième livre. En fait, la suite. puisque même si l'histoire se termine, nos trois protagonistes féminines se retrouveront dans un deuxième opus, avec cette fois-ci l'une des héroïnes au centre. Enfin, je vais varier, je vais faire trois ouvrages, comme il y a trois héroïnes, et à chaque fois, ça sera une héroïne au centre de chaque roman. Et donc, le deuxième se passe pour l'instant, enfin, il commence à Alexandrie en Égypte.
Très bien.
Voilà, je vous le dis, sans divulguer.
Mais si celui-là, qui est paru donc en 2024, avait été commencé en
2013, j'ai commencé.
Donc, le prochain, c'est dans 10 ans, c'est quoi?
Non, j'espère pas. J'en ai déjà fait un tiers du livre. La seule chose, c'est que je suis enseignante et faut que j'ai le temps de rédiger et c'est pas toujours le cas. Donc, mais non, j'espère le sortir avant juillet 2026. Bon.
Très bien, merci Isabelle Laurent.
Merci.
Et donc, je rappelle l'énigme Théodora et donc qu'on peut commander
en librairie,
d'accord.
Ou sur Amazon. Très voilà, bien. Pas de souci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci à Véro qui était à la technique en direct du salon Polars sur Loire, voilà, qui se tient aujourd'hui samedi 22 novembre jusqu'à 18h. Merci.
Des poches sous les yeux, l'émission.